Bonjour à tous et bienvenue dans un nouvel épisode du podcast Les coulisses du jeu. Je suis Antoine Mongeon. Et je suis heureux de vous retrouver encore une fois cette semaine pour l'actualité de développement de jeux vidéo sur la partie business, développement dans les coulisses un peu de tout ce qui se passe dans le développement du jeu vidéo, dans l'industrie du jeu vidéo. Donc c'est notre émission hebdo, on est un petit peu à la bourre, on n'enregistre pas forcément très tôt, une semaine très très chargée malgré les vacances. Mais on est quand même là, on va faire un petit épisode un peu plus courte que la normale. Bon, je pense que je vous dis ça à chaque fois, mais maintenant ça devient une petite habitude, mais c'est quand même un important de garder les bonnes habitudes et de parcourir un peu tout ce qui se passe dans l'industrie avec pas mal d'actualités, pas mal de choses qui bougent aussi et des articles assez intéressants et inspirants aussi pour les développeurs. En tout cas, enfin, c'est ce que je trouve aussi hein, qui m'inspire beaucoup dans tout ce que je vois passer. Et sans perdre aussi les bonnes habitudes, n'hésitez pas à aller noter le podcast sur toutes vos plateformes de podcast sur lesquelles vous nous écoutez. Donc Apple Podcast, Google Podcast, Spotify, partout vous pouvez mettre des notes, 5 étoiles, c'est top, avec un petit commentaire aussi, c'est cool. Ça permet vraiment de donner plus de visibilité au podcast ça permet à plus de gens de découvrir les coulisses du jeu. Ça permet peut-être d'aider des gens qui se posent des questions, qui sont dans l'industrie, qui se lancent. Vous pouvez aussi recommander ce podcast autour de vous. Donc sans plus tarder, on attaque les premières news avec Capcom. En fait, c'est un petit article qui est apparu sur GameIndustry.biz, hein, qui est un excellent site dont je parle assez souvent dans ce podcast, qui raconte un peu les recettes du succès de Capcom. Donc Capcom est assez connu pour surtout les jeux. Moi, je l'ai surtout connu à la base pour les Street Fighter, donc les jeux de baston, les jeux de combat. Mais ils ont fait pas mal d'autres jeux. Hein, donc c'est aussi la société qui développe les Monster Hunter, Mega Man, Resident Evil, Power Stone, Rival Schools, Devil May Cry, etc. Donc ils ont pas mal de titres à leur actif et ils ont été fondés en 1983, c'est une société japonaise, ils développent et éditent leurs propres jeux et ils ont réussi à survivre dans tous ces tumultes de création de studio, de fermeture de studio, etc. Donc ils sont toujours là depuis 1983 ils ont toujours la forme, ils dégagent toujours autant de bénéfices. Il y a quand même eu des passages un peu difficiles pour eux, mais en fait, donc dans ce qu'ils racontent dans leur expérience chez Capcom, c'est comment ils ont réussi, c'est quoi la recette clé de leur succès pour Capcom. C'est quand même essentiellement de rester sur une ligne directrice un peu ferme. Donc ils vont pas être dans le FOMO. Donc le FOMO, c'est le fear of missing out, qui est un peu la psychologie du consommateur. On l'a dans, par exemple, quand on voit une promo, etc. On veut absolument l'acheter pour pas passer à côté, même si l'objet en question qui est en promo ne nous intéresse pas forcément, mais vu qu'il est pas cher, on a peur de rater, que peut-être que demain on en aura besoin, donc on va le faire. Donc je suis la première victime de ça, donc je peux pas vous jeter la pierre. Donc je suis tout le temps en train de regarder les promos et tout sur les sites machin et me lancer dedans. Bon, je me suis un peu calmé quand même avec l'âge, peut-être que je deviens plus raisonnable, mais l'idée c'est que on a peur de passer à côté. Donc cette tendance là elle est aussi vraie dans tout ce qui est au niveau tech et le jeu vidéo également, où pas mal de sociétés se lancent sur les nouvelles technologies, sur les nouvelles tendances, pour pas passer à côté du train en marche et de se retrouver avoir les choses passer devant soi et de rater une opportunité business par peur de manquer. Donc ils vont peut-être créer, stimuler des choses un peu de façon artificielle pour prendre le train en marche et essayer de suivre les dernières tendances à la mode. Donc il y a eu pas mal de sujets hein, ces derniers temps qui sont plus ou moins qui étaient un peu là-dedans. Donc on peut parler sûrement dans quelques temps déjà là, tout ce qui est un peu la 3D relief. Donc il y a eu la Coupe du Monde à l'époque où la 3D relief est arrivée sur les télés, tout le monde ne vantait que ça, la 3D relief, il faut absolument voir, etc. Donc tout le monde vendait des télés et tout, maintenant plus personne vend, mais en avant cette fonctionnalité de 3D relief, tout le monde a rangé ses lunettes de 3D. Bon, il n'y a que les cinémas encore qui ont gardé ça, mais c'est vrai que c'est quelque chose qui est passé un peu à côté. Et pour les jeux vidéo, il y a eu tout ce qui est NFT, blockchain, il y a eu aussi qui a un peu passé de mode ou qui se stabilise un peu. C'est comme la VR, hein, passé un temps et la VR était vraiment le sujet. Ça existe toujours, mais peut-être moins que présent que ce qui a été par le passé. Et plus récemment, bah là, c'est toute la partie IA qui est en ce moment un peu dans cette mode. Mais du coup, Capcom, pour revenir à eux, ils ne regardent pas ça. Enfin, ils le regardent, mais de très loin. Ils disent, bon, ok, c'est cool, il y a ça, mais on va rien faire. On va pas faire de projet où, si on y va, ça va être très peu de risques. C'est quelqu'un d'autre qui va le faire pour nous et on met aucune énergie, enfin, on met pas d'énergie dedans, on met pas de ressources dedans. Si ça marche, tant mieux. Mais on va pas mettre l'épée dedans, absolument pas. Donc il se protège beaucoup Capcom par rapport à ça, et ça a plutôt bien marché. Donc eux, ce qu'ils préfèrent, c'est vraiment capitaliser sur leur savoir-faire, sur leur IP, donc toutes les licences sur lesquelles ils ont travaillé, sorti et qui ont marché depuis des années. Donc voilà, ils ressortent la même chose. Ça a été beaucoup critiqué, hein. Je vous rappelle quand on avait le énième Street Fighter 2 Alpha Prime 13e édition qui sort. On se dit bon, là ça fait un peu beaucoup juste pour sortir un ou deux persos en plus et des coups spéciaux. Ils nous ressortent un jeu à l'époque 40-50 €, ça commençait à faire énorme quoi. Et ça manque pas en plus avec les dernières sorties des Street Fighter 4, Street Fighter 5 avec tous les DLC, les Season Pass, les persos en plus. Après, des versions arcade ou ultra, etc. Donc c'est toujours la même licence, mais ils rajoutent du contenu, ils le monétisent à fond, ils savent qu'ils ont une fanbase qui les suit, donc ils monétisent, ils capitalisent dessus, donc ça, pour moi, ça reste aussi à questionner, parce que ça veut dire que, bah oui, ils innovent pas, mais ils se servent de la base installée pour faire leurs affaires, et au bout d'un moment, ça va se tarir aussi, parce que si ça tourne un peu en rond, les gens vont peut-être se délaisser. C'est là où ils ont été un peu malins, avec notamment la franchise Resident Evil, où ils arrivent à quand même remettre un petit coup de jeune sur les franchises qui commençaient à être un peu vieillissantes, comme Resident Evil, où c'était un peu, bah voilà, c'était un peu figé, c'est les premiers Resident Evil et tout ça, c'était plus trop d'actualité, et ils ont réussi à faire un bon refresh de la licence avec le reboot qu'ils ont entamé avec les premiers Resident Evil. Ils ont fait le 1, le 2 et le 3, et qui sont vraiment, enfin, moi je suis pas client trop de ce jeu-là, ce genre de jeu, mais je sais que les critiques et les retours sont vraiment super positifs, et donc ils sont lancés dans cette mode de. On capitalise sur ce qu'on a. Alors, si c'est vrai, moi, Capcom, je sais peut-être qu'il y a des gens de chez Capcom qui t'écoutent, j'adorerais revoir la licence Rival Schools parce que c'était vraiment une licence géniale. Enfin, c'était un jeu de baston, pas comme les autres, avec des gens qui faisaient du sport, genre dans tout collège. Enfin, c'était vraiment une thématique assez décalée, assez loufoque. Mais j'adore cette licence, Rival Schools, et j'espère qu'un jour, ils auront la possibilité de refaire un remake de ce jeu, et je suis le premier client. Et ben, voilà. Du coup, c'est un témoignage assez intéressant. C'est une position qui n'est pas forcément là. Quand on voit Square Enix, par exemple, qui s'essaye à l'audio NFT, quand on voit Ubisoft aussi, qui sont ouverts et tout, qui essayent plein de choses. Ubisoft, ils essayent tout, NFT, VR, partout où ils peuvent être, ils le sont. Et des fois, c'est difficile parce qu'il faut démultiplier les ressources, multiplier les projets, prendre des risques. Et c'est vrai que là, Capcom, pour le coup, ils prennent peu de risques. Ils consolident sur ce qu'ils ont acquis et sur ce qu'ils ont. C'est vrai que par rapport à d'autres éditeurs, voilà, ils restent fidèles à leur base de fans et ils continuent à produire tranquillement dans leur coin et ils font des remakes, des remasters et ça leur va très bien. Ils vont continuer à le faire en plus, hein, je pense que voilà, ils vont pas s'arrêter là. Donc c'est vrai que bon, là, tous les tendances et tout. Moi, je me suis fait un peu avoir aussi. Je me rappelle que sur les nouvelles tendances, j'aime bien aussi découvrir un peu ce qui sort, etc. et de sortir un peu des sentiers battus. Et j'avais beaucoup parié sur les casques de réalité augmentée. Donc à l'époque où tout le monde parlait que de la VR, moi j'étais plus focus sur la AR, où j'ai une techno je crois un peu plus que la VR. Et Microsoft avait fait une keynote extraordinaire avec Minecraft sur leur HoloLens. Mais je me suis dit, waouh, c'est exactement ce que j'attendais et tout. Et je vais essayer de me lancer à fond sur ces projets. En fait, petit à petit, en creusant avec les annonces et tout qui arrive, je vais vraiment lancer all-in dessus sur la techno HoloLens. Je comptais même acheter le dev kit et tout ça. Bon, le dev kit, premier prix 2 000 euros. Bon, on s'est dit, ok, alors avec ce prix-là, ça va être très compliqué de l'acquérir. Puis après, en fait, on s'est juste rendu compte qu'on n'était pas commercialisé de version grand public et que c'était orienté HoloLens. que pour du business, pour du B2B. Donc, en gros, faire un jeu sur du HoloLens, c'était suicidaire parce que le parc installé valait être, ça se compte, ça allait se compter en centaines de devices plutôt qu'en plusieurs milliers, voire millions. Donc, un peu déçu, et c'est vrai que ce côté hype, hein, c'est toujours un pari, c'est un risque. Hein, c'est soit ça marche, c'est bingo, soit c'est un échec, et puis bon, on aura perdu du temps. Bon, l'apprentissage est toujours intéressant, mais c'est vrai que maintenant, je me pose toujours la question quand il y a des nouveaux trends, des nouvelles choses. Je suis beaucoup plus prudent que j'aurais pu être à l'époque, et ben, un peu, je deviens peut-être un peu comme Capcom à la longue. Voilà pour la news avec Capcom. Je mettrai le lien de l'article, hein, de Capcom pour voir un peu plus en détail sur ce qu'ils disent. Si vous voulez le lire aussi, découvrir un peu voilà comment Capcom aborde sa stratégie, c'est toujours intéressant. L'autre petite news, c'est les stratégies de croissance pour adopter dans les entreprises des jeux vidéo. Ça va un peu de pair avec l'article de Capcom. Pour moi, c'est vraiment pareil. Hein, c'est un article sur GameIndustry.biz. En fait, je me pose beaucoup de questions sur les sociétés bon, qui courent les levées de fonds, qui font qui essaient de lever, qui sont jamais rentables, qui essaient vraiment de voir comment. Comment s'en sortir avec des pirouettes et tout pour être pour résumer un peu. Et en fait, dans cet article de Game Industry, c'est sur la croissance et comment avoir une croissance un peu durable. Il explique justement quelques points clés de stratégie de croissance à retenir. Donc, c'est voilà, par exemple, il parle de Roblox qui croit voilà. Ils prennent plusieurs exemples d'entreprises. Donc, il y a Roblox qui vise une croissance mondiale. Donc, ils ont atteint 1 milliard d'utilisateurs actifs au quotidien. Donc, c'est quand même énorme. 1 milliard d'utilisateurs, c'est jamais vu. Bon, après, dans les 1 milliard, il y a beaucoup d'enfants, hein, beaucoup de mineurs, donc qui ne monétisent pas forcément directement. Ce qu'il faut savoir, c'est que la société continue à soutenir financièrement sa croissance de folie, quoi. Et ce qui est aussi important, je crois que c'est ils ne gagnent pas d'argent. Donc ça c'est l'autre truc qui est un peu compliqué. Ils sont toujours en déficitaire, donc ils sont à plus de 300 millions de si je me trompe pas de pertes. Donc ils gagnent toujours pas d'argent. Donc c'est compliqué parce que voilà, il y a la tendance, Roblox, tout le monde parle de Roblox, etc. Bon, si on prend une autre industrie comme Facebook, le social media, pendant des années, ils ne gagnaient pas d'argent. Maintenant, je sais plus trop où ils en sont, mais je sais que pendant. Bah si, après, ils ont été rentables grâce à la publicité Facebook, mais pendant des années, ils n'étaient pas rentables. Ils ont passé. Des caps incroyables de montée d'utilisateurs, de scale-up d'utilisateurs pour arriver à un moment où dire bon, voilà, maintenant j'ai ma base d'utilisateurs installée, du service Facebook, et maintenant je vais arriver à les monétiser avec toute cette donnée, je vais les revendre à d'autres sociétés qui pourront faire de la publicité à ces utilisateurs et je pourrais être rentable que ça. Donc ça a payé cette stratégie. Et là, Roblox, bon, bah, du coup, ils en sont encore à réfléchir comment du coup ils vont arriver à rentabiliser leur c'est intéressant de voir comment bah, tous ces business, toutes ces choses peuvent voilà comment on peut arriver à faire une entreprise rentable et il y a l'exemple de Roblox ici, il y a l'exemple de Take-Two aussi qui avait racheté je crois Take-Two c'est ceux qui ont racheté Zynga si je me trompe pas. Ouais, et du coup, il y a des choses aussi qui sont intéressantes où ils essaient aussi d'atteindre Take-Two un large public, une large audience pour pouvoir satisfaire voilà, un maximum de gens avec leur jeu. Mais tout le monde atteint à un certain moment un plateau de croissance. Donc, ce qu'on appelle un plateau, c'est ben, on ne progresse plus, quoi, les chiffres stagnent. Donc, la plupart des industries du jeu, ou même les industries au-delà même du jeu, on subit ça. C'est à un moment donné, ben, on stagne, quoi. Donc, on ne peut pas progresser plus et il faut essayer de se réinventer, trouver des nouveaux moyens d'augmenter les dépenses moyennes par utilisateur. Donc, c'est là où ça devient un peu compliqué et ben, sortir soit un nouveau projet, soit un nouveau, etc. Et c'est important voilà, de trouver des moyens de prospérer, d'être croissant. Après, enfin, cette croissance, après, pour moi, la philosophie, c'est plus L'hypercroisance, ce n'est pas forcément une fin en soi, c'est de surtout arriver à avoir un business rentable qui soit aussi, bah, qui permet de vivre par rapport au jeu, que sorte, quoi. Qu'on sort, une société sort un jeu, s'il est rentable, peut en sortir d'autres et continuer à embaucher du monde et à grossir tranquillement. Alors que si on court à essayer de dire, bon, bah, ce jeu-là n'a pas marché, mais on a encore 3 millions sous le coude, on va sortir un jeu encore et puis peut-être qu'on va refaire une levée et on va avoir d'autres choses qui vont peut-être arriver. C'est un peu casse-gueule. Bon, après, le business et l'écosystème mondial, on va dire, des startups est un peu construit dans ce sens-là, mais j'aimerais vraiment creuser s'il existe d'autres modèles qui peuvent être un peu plus sustainable. Je sais que ça existe, on voit des développeurs et tout qui arrivent à s'en sortir, mais j'ai l'impression que la grosse majorité, quand même, passe par des levées, par des choses où on prend des risques et de perdre de l'argent et de ne pas faire de bénéfices pendant plusieurs années avant de pouvoir dégager les premiers bénéfices. Donc c'est un article intéressant pour réfléchir un peu sur justement sur l'industrie, sur comment faire quelque chose de voilà d'un peu rentable, comment on peut construire un business qui peut être plus sustainable, plus ouais, je trouve pas le mot plus durable, on va dire, plutôt que essayer de courir dans enfin, la course à l'hypercroissance, au l'hyperscaling, ce qu'on entend des fois dans les milieux qui commence un peu à montrer aussi ses limites ces derniers temps où il y a moins de levée de fonds globalement et ben, c'est beaucoup plus compliqué pour les sociétés pour rester debout quand ben, la première source de revenus qui n'est pas du coup la vente des jeux mais l'investissement externe commence à se tarir quoi. Donc voilà, c'est des pistes de réflexion intéressantes. Ce sera tout pour cette semaine, ces deux petites news un peu plus orientées entreprise, construction d'entreprise pareil, je mettrai les deux liens en note de l'émission et n'hésitez pas à nous suivre sur Twitter @ les coulisses du jeu, enfin @ coulisses du jeu, coulisses au pluriel, sur YouTube, partout, voilà, je crois que c'est déjà pas mal. Et puis nous, on se dit à la semaine prochaine. Bye.